3.
État d'alerte jaune déclenché par toutes les stations. Capitaine, je capte une espèce de signal radio subspatial.
Passez-le sur écoute.
Analyse, monsieur Data.
Les détecteurs relèvent de nombreuses fluctuations gravimétriques assez inhabituelles.
Inhabituelles, c'est-à-dire précisées.
Quelque chose de jamais.
Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Trek.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, et je suis accompagné de Pierre et de Marc. Bonjour vous deux.
Bonjour.
Salutations.
Donc, grosse journée dans l'univers Star Trek. On a déjà qu'on avait une grosse nouvelle qui était passée la semaine dernière avec Aaron Harberts et Gretchen Berg qui ont été oustés de la production de Discovery. Là, on a un deal de 5 ans signé par Alex Kurtzman pour créer plus de Star Trek.
Et rappelle donc aux ignores qui est Alex Kurtzman, s'il te plaît.
Ben, Alex Kurtzman est le producteur donc présent qui travaille présentement sur Discovery. Il a été aussi travaillé sur les films de la Kelvin Timeline et avant cela, il a aussi travaillé sur Fringe, sur Alias. Il a aussi contribué à la création du reboot de Hawaii 5-0. Oui, apparemment très bon. Je pense que c'est dans la 5e ou 6e saison là, déjà. Là. Donc, c'est pas des. Quand il travaille sur des séries, c'est généralement des séries qui durent. Là. Il y a Scorpion que je pense qu'il vient d'être cancellé. Je pense que ça a comme duré 2-3 saisons. Mais quand même.
C'est un gars. C'est en ordre.
Ouais, c'est quand même pas. C'est pas quelqu'un qui fait des shows de 2-3 saisons, de 1 ou 2 saisons, puis qu'on oublie après. Là. Il y a même aussi, au début de sa carrière, il travaillait un peu sur Xena puis sur Hercule, donc en tant que producteur. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience. J'ai l'impression que ça va devenir un peu le Rick Berman de notre époque, là, le producteur en arrière de. À l'époque des années 90, c'est lui qui avait repris les rênes là, après le décès de Gene Roddenberry, qui avait été derrière Next Generation, DS9, Voyager, Enterprise. Il y a quelques projets qui se préparent. Il y a un des noms de Patrick Stewart qui circule en arrière dans les rumeurs, mais...
Un après
Némésis, possible. Ouais,
c'est ça. Personnellement, moi, j'aimerais ça un à l'époque de l'Enterprise B. Tu sais, avec les uniformes rouges, là. J'ai trouvé tellement beau ces uniformes-là.
Ouais. Écoute, moi, c'est sûr que le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'encore, ils vont se sentir obligés. Ça va être difficile de retomber dans une facture visuelle années 90, fait qu'ils vont peut-être se sentir obligés aussi de changer le visuel. Ça, on va savoir, parce que là, on a déjà changé le visuel de avant la série originale, fait que là... Je suis curieux de voir comment ça se développerait par après, mais en tout cas, on verra par rapport à tout ça. Il y a aussi des rumeurs de séries animées. Je pense que ça serait peut-être plus facile à faire parce que là, on parle pas de refaire des décors physiques. Je pense que ça irait mieux pour faire des séries qui sont dans des époques déjà cataloguées, là, justement, comme tu dis, des uniformes rouges ou Next Generation ou même DS9. Quelque chose de même. Je pense qu'une série animée pour ces époques-là, ça passerait peut-être mieux que quelque chose de filmé. Je sais pas pour vous.
De toute façon, il faut concurrencer Clone Wars. On n'a pas trop le choix de faire une affaire
Clone
comme
War
ça.
Fini en passant. Rebels aussi.
C'est fini, mais il faut quand même quelque chose concurrencer. Si Star Wars l'a fait, Star Trek peut le faire.
Oui, c'est ça. Star Trek l'avait déjà fait. Là.
Ouais, mais là... Mais
ça a existé, puis ça a même été très, très bien coté pour l'époque, là, Star Trek, la dessin.
Oui.
puis il a duré presque aussi longtemps que
Clone Wars. Ça a duré une saison et demie. Ça a duré deux saisons, puis la deuxième saison était...
Je te rappelle qu'à l'époque, les saisons, c'était 72 épisodes.
Je tiens à te dire...
Comparé à 25 épisodes par saison pour de nos jours, fait que d'après moi, ça équivaut.
Non.
Ben, moi, la série animée, là, moi, je compare ça à des Ewoks. Là.
Ouais, peut-être en qualité graphique, mais peut-être pas en qualité.
Mon cher Pierre, je tiens à te mentionner qu'il y a eu 16 épisodes dans la première saison de la série animée et 6 dans la deuxième saison de la série animée de Star Trek. Ouais. Donc, on parle pas de 76 épisodes, on parle de 16,
moins 18, de 20. 20.
C'est ça. On parle de 22 épisodes au total.
Excuse-moi, de quand j'étais jeune puis que ça jouait.
Ouais, je sais, ça. C'est...
Télé quoi, là, avec l'arbre, là. Le poste pour enfants avec
Canal
l'arbre.
Famille.
Canal Famille, c'est ça.
Je sens que ça passait à Télétoon.
Ça passe... moi, ben oui, c'est vrai.
J'avais vu à Télétoon, pas à Canal Famille.
Tu sais que je l'ai vu, moi. Je l'ai vu avant ça.
À Télémétropole.
T'as joué à TV? Je vois pas TVA. Avant que ça s'appelait TVA.
En tout cas, essaie pas de te vieillir plus qu'il faut, là. mais bon, on en parlera tantôt. Je sais que Pierre, faut te préparer à une certaine visite parce que, bon, vous l'aurez. Comme à chaque fois, on trouve toujours un moyen de parler de nos amis à Ticonderoga. Ce coup-ci, c'est vraiment parce que, bon. Pierre sera présent ce week-end pour fêter le Québec en dehors du Québec.
Dites ça, chose si spéciale que ça, mais quand vous étiez à Comic-Con Québec, j'étais là.
Ouais, non,
toi, t'étais pas là.
Non, moi, je travaillais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nos amis au Star Trek 7 Tour ont invité certains auteurs de romans pour venir passer la journée bien tranquille. Donc, faire des tours, donner des petites conférences. Donc, on va être là. On va d'ailleurs avoir Dave Gallanter en entrevue. Et j'ai déjà aussi une entrevue avec son collègue Keith DeCandido. Avec un peu de chance, il faut avoir Peter David. D'ailleurs, Pierre, tu vas peut-être reconnaître Peter David de la série Space Cases.
Ah, oh, ça, c'est Patricia qui va être contente de le voir parce qu'elle a trippé là-dessus, cette série-là. Là.
Donc, c'était lui qui a travaillé sur ce principalement. C'est lui, je pense qu'il était pas dur. En tout cas, c'était lui qui a créé vraiment cette série-là. Là. Pour trouver des petits points en commun. Donc, c'est tous des auteurs qui ont quand même travaillé sur d'autres. Je pense, je suis pas sûr pour Dave, mais je sais que les autres ont quand même travaillé sur d'autres. D'autres séries, donc on parle dans le cas de Keith, là, je regarde, là, je vois des romans de Serenity, Starcraft, Supernatural, World of Warcraft, qu'est-ce que c'est, quelques romans originaux, c'est un roman de Leverage, donc Buffy, fait que c'est du monde qui ont travaillé sur...
Je regarde de Wikipédia en ce moment. Je vois que Peter et David, ils travaillent avec Marvel. Il a fait des scénarios pour Spectacular Spider-Man, Incredible Hulk, Spider-Man 2099.
Il a fait X-Force, si je ne me trompe pas.
Il a fait DC Comics, Aquaman et Supergirl. X-Force, oui, non, il a fait X-Factor.
Ah, yep. X-Factor, ok.
C'est ça, là, il a fait. Il a travaillé dans beaucoup de choses aussi.
Pas n'importe qui, là.
Non.
Il a fait mon meilleur roman de Star Trek, là, il nous a dit.
Ah,
moi, je l'adore.
Oui, ça reste un grand classique dans la littérature trekkie. Comme on parlait ce week-end, là, malgré le fait qu'il a pas mal été décanonisé là, parce qu'il a été écrit comme entre deux saisons de Next Generation, c'est ça que je pense que tu m'avais dit. Quelque chose comme ça. Ouais. Là. Donc, c'est les malheurs de l'écriture à cette époque-là où c'était un peu. Les romans, tenait pas vraiment en compte. Donc, c'est ce qui est moins le cas de nos jours. Ce sera peut-être quelque chose à un sujet abordé avec eux quand on les aura en entrevue. Mais donc, c'est ça. Donc, ça va être la première visite de Pierre là-bas.
Et de Patricia.
Oui, et de Patricia, d'ailleurs, c'est vrai, parce que Patricia va faire partie de ça. Ben, ça pour vous autres, ça pourrait être une petite escapade romantique.
En amoureux. Est-ce que c'était là avec vous?
Ou... Non. Là, c'est
vraiment... OK, c'est vraiment romantique, alors.
Oui. On va romantiquement aller visiter les Américains, alors que Trump veut notre mort.
Mais non, voyons, c'est pas si pire pour l'instant.
Oui, ouais, montrer pour... l'image Ghostbuster en passant. Si vous avez la chance d'y montrer l'image, tu sais, du garage avec le Ghostbuster. Là.
Oh, wow.
C'est les deux gars, c'est vrai.
S'ils vont à New York City, mais c'est quand même. New York City, c'est pas mal plus loin que.
Ouais, mais on l'a vu, c'était sur notre chemin de retour qu'on l'a vu.
Non, c'est vrai, oui, ce que je parle. Pas le graffiti, mais il y a un artwork. Oui, c'est vrai. On va essayer de s'arrêter et de le prendre en photo. Mais en tout cas, sur le chemin.
Mais je l'ai, je pense.
Ouais.
Il faudrait que je le retrouve.
Donc, ça, il y avait un graffiti sur un mur avec un beau artwork de Ghostbusters là, sur le côté d'un garage. Là, donc,
Ça m'intéresse. C'est peut-être des collègues américains. Parce qu'il y en a beaucoup.
Peut-être.
Il y en a beaucoup, là, des Ghost Heads.
Mais non, c'est ça. Donc. Pierre, moi, ce que je vais te demander, premièrement, c'est est-ce que malgré, je sais que tu t'en caches pas, t'es pas un grand fan de la série originale.
Non, moi, je préfère les films.
Mm-hmm. Mais est-ce que t'es quand même, je veux dire, qu'est-ce qui t'a convaincu d'y aller pareil? Est-ce que c'est le fait qu'on te casse les oreilles tout le temps avec ça?
Non, parce que ça a l'air awesome.
Ah ben,
oui.
Je suis capable d'avaler le fait que c'est le vieil Enterprise. C'est pas grave, ça va être un Enterprise pareil. Là. Je veux dire, je me souviens très bien de l'épisode où est-ce qu'on voit le vieux Scotty sur l'Enterprise D qui demande à voir son vaisseau original, puis c'est la passerelle. C'était quand même cool. Aussi l'épisode d'Enterprise où est-ce qu'ils vont sur un vaisseau justement c'était le Defiant, me semble.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment nice ça aussi. J'aime bien les nouveaux films, c'est sûr sont bons. Puis moi c'est sûr par exemple, moi je préfère vraiment à partir du deuxième film de Star Trek là, les vieux Star Trek, je les aime vraiment beaucoup. La série originale, le seul épisode que j'ai vu au complet, c'est l'épisode que j'ai subi avec vous autres parce qu'il y avait une espèce de fumée bizarre qui tuait du monde.
Oui, Obsession, oui.
Ouais,
mais je pense que honnêtement, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Marc, je pense qu'il faudrait au moins que tu voyes The Doomsday Machine. Parce que c'est un épisode qui se passe entièrement dans les décors de l'Enterprise, ben le décor du Constellation, qui les mêmes décors que l'Enterprise. Puis quand
parlant de Doomsday Machine, j'ai vu un épisode fan-made est-ce que c'est genre la suite de ça ou je sais pas trop quoi.
C'était filmé justement dans ces. Ben c'était pas ces décors-là exactement, c'était la même personne. James Cawley, Star Trek Phase 2 à l'époque. Sauf qu'à l'époque, il était dans un petit garage à Port Henry. C'est vraiment ça fait juste quelques années qu'ils sont maintenant à Ticonderoga.
Puis avec le garage de son grand-père.
C'est ça, ouais, quelque chose comme ça. Parce que ça, avant, au début, là, quand ils faisaient leur premier épisode, il y avait vraiment juste comme le bridge. Je pense qu'il y avait juste la passerelle, il y avait la salle de téléportation, puis il n'y avait pas grand-chose d'autre en termes de décor, puis ils faisaient avec.
Je pense pas qu'il y avait grand-chose sur le set original quand ils ont commencé à tourner Star Trek.
En fait, plus quand même. Puis il faut que tu leur donnes quand même du crédit. Il y avait la salle des machines, il y avait les corridors, il y avait la salle de conférence. Ils en ont construit beaucoup. Je pense que c'est le fait que quand tu produis une série de télévision, tu vas construire le plus de décors possible que tu aurais utilisé au départ, comme ça rentre dans ton budget initial. Quand ça, tu peux se réutiliser par la suite. Donc, parmi certaines choses que tu vas peut-être apprendre lors de ton visite, parce que lors de ta visite là-bas, là, peut-être te donner une meilleure image là, de la série originale. Là. C'était pas aussi broche à fond que tu penses.
Mais de toute façon, dans le hall d'entrée, on voit justement une bobine justement de Doomsday Machine.
Oui. C'était une bobine de film. Une caméra, je pense que c'est pas la, en tout cas, la
t'as la caméra, puis t'as une bobine de film, si je me trompe pas, ou le clap-clap, là.
Ouais, oh non, c'est pas la bobine, c'est vrai, c'est le clap. C'est
le clap-clap.
Okay. Ouais, c'est ça. Mais Pierre, moi, ce que je suggérerais, c'est vraiment, va sur Netflix et va voir Doomsday Machine. Je pense que tu vas quand même bien apprécier l'épisode, puis tu vas voir, ça va te préparer un peu au niveau des... Des décors. De...
Moi, j'aime bien Charlie X aussi comme épisode. Ou...
Je pense que l'autre qu'il faudrait que j'écoute, ça serait Trouble and Tribulation.
Oui, oui, je pense que ce serait pas mal.
Ben, si tu l'écoutes, faut, après, il faut que tu écoutes absolument la version DS9 là, en hommage. Bon, ça vaut la peine
d'écouter. Un ou un autre, je veux écouter toute DS9. Mm-hmm. C'est juste que. Où es-tu? Je ne t'ai pas.
Non, mais je te dirais, comme avant de partir, là, pour te mettre un petit peu dans le mood, Doomsday Machine puis Trouble with Tribbles. Je pense que tu vas quand même apprécier l'humour de Trouble with Tribbles. Puis il y a quand même du bon spaceship action dans Doomsday Machine. Là. Puis c'est quand même un des meilleurs épisodes de la série originale. Là. Puis on peut quand même bien apprécier les décors qui sont réutilisés de différentes manières. Là.
Ouais.
Parce que moi, c'est vraiment parce qu'une fois que j'ai vu le set tour, j'ai comme réalisé que c'est toujours le même coin de corridor qui montre.
Toujours.
Toujours filmé dans un autre angle, c'est ça?
Ouais, quasiment, là, c'est ça. Fait que c'est juste drôle, c'est ce genre de show que tu remarques après. Mais je veux dire, ce serait la même affaire avec les décors de la nouvelle génération où, de Voyager, c'est souvent le même bout de corridor qu'ils réutilisent pour tout. Hein? Fait que, peu importe, tu peux pas faire un vaisseau grandeur nature non plus, malheureusement.
Ouais, ils faisaient ça dans Voyager, dans Enterprise aussi.
C'est ça. Fait que...
Ah, et puis on apprend tellement des affaires, des petits trucs, qu'est-ce qu'ils faisaient, les portes qui ouvrent. Puis,
Ah, j'ai très hâte.
Mais ce qui est le fun, c'est quand même la ville de Ticonderoga, quand même. C'est le fun que tu peux te promener en cosplay dans la ville, puis même si tu croises des jeunes, ils ne t'en regardent pas comme bizarre. Là.
À part si t'es déguisé en Ghostbuster.
À part si t'es en Ghostbuster.
Écoute, tu me donnes presque le goût d'amener mon stuff pour la vie.
Moi, je t'imagine en Ghostbuster faire le set tour.
Hey, ouais, justement, parlant de ça, la fin de semaine passée, je me suis habillé en Ghostbuster. Pour aller à une conférence de Christian Robert Page à la Ninkasi pour le festival Vitesse Lumière. Puis c'était un panel, bref, une conférence sur le paranormal à l'épreuve de la science. Et évidemment, moi, j'ai été là habillé en Ghostbuster. Le monde trouvait ça super sympathique. Il y en a plusieurs qui disaient « Hey, Ghostbuster, yeah! » Puis, c'est le fun de savoir qu'il y a toujours de l'amour de Ghostbuster à gauche et à droite. Moi, j'étais là pour le panel. Et je trouvais ça super, méga intéressant. Les informations qu'il donnait, le gars, il est très, 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 très intelligent, très, très bien fait son panel. Ces choses très bien, pensées. C'est un investigateur aussi. Il a été à des situations qui ont été vraiment intéressantes. Bref, puis il nous a montré les YouTubers là, qui montrent des affaires de fantômes, puis qui font zéro science ou de d'OVNI, etc. Ils disent tout le temps les scientifiques nous croient pas, les scientifiques nous croient pas. Mais c'est les scientifiques qui ont étudié ça, puis ils ont des preuves comme quoi que c'était pas comme vous pensez, etc.
Ouais.
Mais bref, c'était super intéressant. Puis, évidemment, Christian Bapage a trouvé ça très amusant que je vois une conférence sur le paranormal à Ghostbuster. Moi, je dis, ah ben là, je reviens de la job, tu sais.
Ah, oh, Pierre.
Ouais, j'ai bien aimé la photo que tu as mis justement avec Christian Page.
Ouais, ouais, c'est dommage, elle n'est pas très bonne. La personne n'a pas l'air de bien comprendre comment prendre une photo sur mon appareil. Mais bon, c'est pas grave. Je suis content de l'avoir faite au moins. Puis, à part de ça, sinon, j'ai vu un autre excellent reportage.
Mm-hmm.
Un reportage qui s'appelle Ghost Head.
Oh!
Oui, qui est carrément un reportage sur les amateurs de Ghostbusters. Un excellent reportage d'ailleurs, quand même assez long, très complet, où ce qu'on suit des Ghostbusters de un peu partout dans le monde, où ce qu'on voit même l'Ecto 1 canadienne, ben en fait québécoise,
okay.
que des gens peuvent déjà vu à la TV ou dans des événements spéciaux, parce que ce qui est drôle, c'est qu'elle appartient à quelqu'un qui fait une émission qui s'appelle Le Croque-Mort sur le Canal D ou je sais pas trop quoi, le Canal V. Okay. Bref, des fois, il monte avec sa acteur. C'est très amusant. Mais bref, on voit cette auto-là ainsi que son constructeur qui n'est pas la même personne. C'est ça, parce qu'ils vont en Ontario puis on voit même des vedettes. Là, genre, on voit Ernie Hudson, Ivan Reitman, Dan Aykroyd qui ont fait les films. On voit même Sigourney Weaver. J'étais vraiment impressionné. Non, c'est un excellent reportage. Je le recommande beaucoup. Puis c'est pas mal ça, là.
Ben, c'est bon, ça. Ben, écoute, c'est pas mal, ça. Sinon, ben, à part de ça, ben, il nous reste 41 jours avant Vegas. Parce qu'avant notre départ pour Vegas, je tiens à mentionner que notre agenda commence déjà à se remplir de façon incroyable.
Ouais, je vois ça, là.
Parce que moi, j'ai. Ben, déjà que là, j'ai appris cette semaine qu'il allait y avoir un Klingon Feast. Donc, un festin Klingon. C'est un événement non officiel qui est hosté par le Millennium Fandom Bar à Las Vegas. Donc, ce serait leur deuxième édition. Donc, moi, j'ai pas le choix d'y aller. Parce que, comme j'ai mentionné, j'ai été recruté par les Klingons. Donc, je suis maintenant, fait partie d'un groupe de Klingons maintenant. Donc, c'est comme ma job de représentant. Donc,
t'as pas le choix d'amener ton front maintenant.
Non, c'est ça, ben, surtout mon front que j'ai. Ben, mon front, quand même, qui a une historique. Malheureusement, j'ai pas retrouvé le front original que mon ami Véro m'avait fait à l'époque. Cependant, j'ai retrouvé celui que j'avais gagné dans un tirage en 2012 à la convention Polaris. Polaris, qui était anciennement une convention entièrement Star Trek, s'appelait Toronto Trek. Et 2012 était leur dernière année avant qu'ils ne mettent la clé dans la porte. Il y avait Will Wheaton qui était présent, ainsi que les acteurs qui jouaient Garon et Martok. Et justement, Garon et Martok étaient présents en make-up. Donc, la personne qui fait leur make-up, John Paladin, offrait en tirage une session de make-up en Klingon, ben justement pour comme servir de cobaye pour sa présentation sur comment se transformer en Klingon.
Et tu avais gagné.
Et j'ai gagné ce tirage, ce qui est drôle parce que j'étais comme un peu nerd parce qu'à l'époque j'étais un peu plus impliqué. Je traînais avec des groupes de Klingon, mais il y avait une chicane entre CAG et CAG Canada et tout ça. Puis moi j'étais comme un peu. J'étais nerd entre les deux. Je m'en foutais, j'avais du fun avec les deux. Fait que tout le monde se disait, ben, c'est comme la meilleure personne qui fait gagner ce tirage-là parce que c'est quelqu'un qui est neutre. Fait que, faut croire que les politiques de Klingon, ça va jusque dans la vraie vie, malheureusement. Mais pour jusqu'à date, maintenant, en 2018, ça a l'air assez de calmer, cette petite guerre-là. Donc, je suis content de voir ça. J'ai retrouvé ce front-là. C'est juste la seule chose qui est malheureuse avec ça, c'est que j'ai une belle. Comment dire, une belle perruque bouclée noire, tu sais, qui ne fit vraiment pas avec ma barbe, là. Fait qu'il va peut-être falloir que je me magasine une autre perruque avec ça, mais ça, on verra ça en temps et lieu, là. Fait que ça donne un petit look années 80 frisé avec une permanente, là. C'est pas. c'est juste un peu étrange. J'ai l'air d'une annonce de conditionneur. Quand je vais
parce que tu le vaux bien.
C'est ça exactement, mon cher. Mais non, c'est ça. Donc, sinon, au niveau des événements non officiels pour Vegas, bon, les gens du fan club USS Rio qui ont organisé différents repas, là, donc le Welcome Dinner, Welcome Breakfast, Goodbye Breakfast. Il y a même un cabana party le lundi aussi, suivant là, la fin de la convention. Il y a Fansets, là, ceux qui font les petites épinglettes, qui organise un party à un bar qui s'appelle The Other Room le vendredi.
Où est-ce qu'on peut avoir une pin Fanset spéciale?
Une pin exclusive! Il y a aussi apparemment que les gens de Gaze in Space vont être là. Donc, justement, nos amis de Roddenberry's vont faire une apparition. Probablement cet événement-là, je n'ai pas encore de date, mais j'imaginerais que ce sera probablement soit le lundi. Soit
mais là! Mais là, Chippy, cet après-midi, je t'ai vu commenter liker quelque chose. C'est quoi, du Dr. McKenna de...
Ouais, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un espèce
un
de...
Rassemblement.
Un rassemblement de meet and greet avec la jolie demoiselle qui joue le Dr. McKenna dans Star Trek Continues. Il n'y a pas encore de mais date spécifique, là.
OK. Parce que moi, plein de rousses en robe bleue, ça m'intéresse, là.
Ah, oh, mon cher Marc, tu vas te faire briser le cœur encore.
Je le sais, mais pis. C'est quand même des rousses avec des robes bleues.
Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Les amis de Gaze in Space, il y a aussi un Night of Diversity Party hosté par notre ami Heather le samedi. Donc, il y a plein d'activités autour de la convention en tant que telle.
J'ai l'impression que vous allez faire en une fin de semaine ce que moi je fais dans toute un été.
Ben, à peu près.
C'est pas une fin de semaine, mon cher Pierre. C'est 5. En fait, là, présentement, on parle de. J'ai des activités le lundi,
sur
mardi,
six jours,
jeudi. Sur 6. Même si on les tire sur 7. Parce que du
lundi, le Rio, c'est vrai, le Rio, ça va être le 7e jour. Hein?
C'est ça. 7
jours.
Du lundi au lundi, on a de quoi? On a de quoi, là?
OK.
Parce que ça, faut,
ça c'est
faut,
juste les soirs là. Les jours sont pas les.
C'est ça, parce
on
n'a
pas booké les après-midi. Là.
C'est ça. Parce que moi je voulais voir le musée du paintball, le musée du néon. Il y avait aussi le. Il y avait une couple d'autres places qui avaient l'air intéressantes. Il y avait un musée du, une espèce de musée dédié aux essais nucléaires là, qui avait lieu. Justement dans ce secteur-là des années 50 et 60. Moi, ça m'intéresse. Parce que justement, j'avais vu un épisode de la série Timeless. Les gens sont à Las Vegas à cette époque-là. Puis là, justement, il y avait une espèce de pool party autour dans un hôtel. Puis là, pouf, on voit une bombe nucléaire exploser. Puis là, tout le monde applaudit. Ça fait juste drôle de savoir qu'il y a une époque où tu peux aller à Las Vegas puis voir des bombes nucléaires exploser. Puis c'était normal. Là. C'est quand même quelque chose, c'est.
Moi, si j'ai la chance, je vais les tirer du gun.
Oh, mais faut, ouais, ça, il y a sûrement des grosses réglementations par rapport à ça, là.
Ouais. Ça s'appelle rentrer dans la bâtisse et tirer du gun. C'est ça, la réglementation à Vegas.
Ah ouais, pas vrai.
Il y a plein de bâtisses spécialement pour ça. Là. Tu rentres à l'intérieur, tu loues tes balles, tes guns, puis tes balles, parce qu'il faut que tu t'achètes.
OK. On checkera ça. J'essaie de pas me fouler un poignet en tirant du gun.
Mais t'es pas obligé, mais c'est pas donné quand même.
on verra ça. On verra ça. Donc, en tout cas, c'est pas mal ça, notre petit truc. Je sais pas si... moi, je vais mettre un petit peu de musique. On peut partir avec un petit peu de Warp 11. On va revenir, on va parler un petit peu plus en détail de ce qui s'est passé dans l'actualité Star Trek.
Je vais vous quitter là-dessus.
C'est ça que j'allais faire. J'essayais de faire un segue vers ça, Pierre, mais tu m'as empêché.
Ah, ça me fait plaisir.
Oh non, on va perdre Pierre.
De mettre des bâtons dans les roues.
De toute façon, on va. Pierre sera, comme je dis, va être avec nous ce week-end. On va essayer de faire des petits lives comme d'habitude. Ouais, soit
live
moi,
Facebook. Ouais. On fait une émission live aussi.
On verra probablement. Là. J'aurai pas mon kit de podcast complet, mais.
J'allais te dire, si t'as besoin que j'amène du stuff, mon char il est pas mal vide.
On verra. Pop. Ouais. On en jasera.
Trois jours pour y penser.
Ben, c'est ça. Donc, sur ça, Pierre, ben, je vais te souhaiter une agréable soirée.
Mm-hmm.
Sur les ondes de puissance maximale.
Bye bye. Je te dis bon voyage, Pierre.
Merci, bye bye. On se retrouve là-bas.
Sauf Marc.
Ouais. Sauf toi, Marc. Espèce de lâcheux.
Ah, que veux-tu?
Ah, merci.
Ticonderoga, nous voilà.
Écoutez A Song for People Who Never Watched Star Trek sur les ondes de puissance maximale. Donc, Pierre nous a quittés. Je suis seul en compagnie de Marc.
Donc, bien sûr, je suis encore là.
Non, c'est ça. Donc, des grosses nouvelles pendant notre absence. Après, on peut commencer en parlant de... Donc, les producteurs Aaron Berg et c'est quoi leur nom complet? Mot. c'est Berg et Harbert, donc qui étaient jusque-là dans les derniers vestiges de Brian Fuller dans la production de Star Trek Discovery, parce qu'on se rappelle qu'ils avaient été engagés par Brian Fuller à l'époque, alors qu'il était encore là, attaché à la série, et que Brian Fuller, à son départ, les avait placés pour le remplacer. Donc, quelques petites théories qui se... Bon, évidemment, on parle présentement, là, on parle qu'il y avait des... il y a des rumeurs comme disant comme de quoi qu'il y avait... Aaron Harberts qui était un petit peu abusif par rapport à certains aux écrivains. On parle... c'était quoi, donc, évidemment? J'essaie de retrouver, évidemment, c'est comme d'habitude. On parle que Berg et Harberts devenaient de plus en plus abusifs envers le staff d'écriture, avec Harberts qui s'était même penché sur la table et qui a crié plusieurs gros mots aux membres de l'équipe. Plusieurs membres de l'équipe se sentaient inconfortables à travailler sur la série et ont menacé de porter plainte aux ressources humaines ou de quitter la série avant d'en informer Kurtzman. Après avoir attendu des rumeurs de plainte au niveau des ressources humaines, Harberts aurait menacé certains membres de l'équipe. Donc, on parle pour garder ça vers un problème à l'interne. C'est pas des choses le fun à entendre, mais malheureusement, c'est pas les premières fois qu'on voit ce genre de comportement-là dans la production télévisuelle où on parle. On se rappellera des deux premières saisons justement de Next Generation qui était rocambolesque. Plusieurs auteurs avaient quitté le bateau pour des raisons justement ça. Il y avait aussi de plus, il y avait l'avocat de Gene Roddenberry qui se mettait les pattes dans les scénarios aussi. Donc, je vais simplement vous recommander d'aller voir Chaos on the Bridge, donc ce documentaire relatant les premières années de Next Generation. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais en même temps, c'est mieux. On s'entend, si les écrivains ne se sentent plus menacés, on peut juste espérer que leur niveau d'écriture suive. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. L'abus, c'est mal voyé, peu importe que ce soit sexuel ou moral, ça passe pas. Donc, tout ce que j'espère, c'est pas que j'espère que les rumeurs étaient vraies, mais en même temps, les accusations étaient... Si accusations il y a, qu'elles étaient fondées, je veux pas encore là me mettre les pieds dans la bouche comme je le fais si bien. Mais en même temps, donc, tout ça, ça laisse il y a Alex Kurtzman qui a les deux mains sur le vent. Et comme j'avais mentionné au début de l'épisode, Kurtzman qui est en position de devenir le nouveau Rick Berman là, de Star Trek. Je pense que ultimement ça va être bon. C'est juste dommage que ça se fasse dans ces circonstances-là. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Marc. Si tu as quoi à dire là-dessus. C'est quelque chose qui est touché. On peut pas vraiment...
Ok, c'est une décision qui a été prise, tout simplement.
C'est ça.
Si tu veux faire plaisir à plus de monde possible, mm-hmm. C'est ça que c'est fait, là.
C'est ça. Et ultimement, ce que ça peut amener au niveau de la série, c'est vraiment que ça va enlever encore un peu plus de Brian Fuller de Discovery. Donc, on peut peut-être s'attendre à quelque chose qui va peut-être commencer à rentrer un peu plus dans les normes de Star Trek, parce que à ce que j'ai pu comprendre, c'était Brian Fuller qui avait inséré les idées un peu plus spéciales, donc le fameux Spore Drive. C'est lui qui avait toutes les grandes idées, là, la guerre contre les Klingons, tout ça. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est que personnellement, au niveau, en tant que fan, c'est peut-être que je dirais que tous ces éléments-là qui étaient un peu plus choquants pour certains, peut-être ramener ça à un niveau plus gérable, un peu moins désotérique, peut-être. En tout cas, on verra bien. Mais c'est sûr que là, aujourd'hui, en plus, pour complémenter cette nouvelle-là, donc on apprend que Alex Kurtzman, qui a re-signé avec CBS là, pour 5 ans supplémentaires de développement de contenu Star Trek au travers de sa maison de production Secret Hideout. Il y a certaines rumeurs donc, qui parlent de qu'il y a plusieurs shows qui seraient présentement en développement, dont une qui serait à Starfleet Academy avec les créateurs Stephanie Savage et John Schwartz, le duo qui a principalement travaillé sur le reboot de Dynasty et qui avait aussi créé des shows comme Gossip Girl et le Marvel Runaways. On parle aussi d'une fameuse mini-série qui était peut-être Wrath of Khan, reliée à Wrath of Khan avec Nicholas Meyer. Donc, la fameuse série que Nicholas Meyer, parce que Nicholas Meyer avait justement mentionné il y a quelques semaines que son projet avait été mis sur la glace là, à cause des chicanes corporatives entre CBS et Viacom. Ça semble s'être comme tranquillisé sur ce front-là. Donc, ce qui a peut-être justement permis l'annonce de ce développement-là de contrat de 5 ans. On parle aussi peut-être, là, on parle de 2 séries limitées, donc vraiment des mini-séries qui sont gardées là, sous couvert. On parle peut-être d'un retour de Patrick Stewart, mais ça, c'est des rumeurs basées sur des rumeurs. Parce qu'il y a un moment donné, il y a Patrick Stewart qui a dit « Je ne regarde pas Discovery, mais j'aurai bientôt peut-être des raisons de commencer à regarder ça. » Est-ce que c'est...
Peut-être.
Mais tu sais... Ce genre de truc-là, ça alimente les machines à rumeurs, mais c'est jamais bien... c'est jamais beaucoup... Il n'y a jamais grand-chose qui en sort. Ça nous fait parler, mais ça n'a jamais vraiment beaucoup de concret au bout de la ligne. Je ne sais pas pour toi, en tout cas. Mais c'est ça. Donc, toi qu'est-ce que tu aimerais voir? Est-ce qu'on voit ça? On parle aussi peut-être d'une série animée. Ben comme, parce que personnellement, moi, nouveau série animée, c'est sûr que le champ plus large. Mais au niveau. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme série animée et qu'est-ce que tu aimerais voir comme série, une mini-série, admettons? Là?
Série animée, c'est un petit peu difficile. Peut-être une série qu'il faut faire qui se passe entre TOS et TNG.
Mm-hmm. Comme Pierre l'a
comme Pierre l'a mentionné. Ce serait bien. Comme série, moi, c'est sûr que j'aimerais avoir une poste DS9. Complètement différent, mais qui se passe genre 15 ans après.
Mm-hmm.
Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Là? C'est arrêté comme ça, il n'y a plus rien qui se passe. C'est, tu sais, l'univers continue. Tous les fans se sont imaginé un univers. Ça ne me dérange pas pour savoir ce qui s'est passé dans DS9. Moi, je veux une nouvelle série dans le futur.
Mais moi, ce que j'ai peur que ça fasse, c'est que ça crée une situation un peu comme ce qui arrive avec Star Wars présentement. C'est qu'avec Star Wars, il y a eu tellement un gros univers étendu préexistant qui racontait l'histoire de Luke Skywalker, puis de la rébellion, puis de la République, tout ça. Et là, tu as Disney qui arrive qui dit non, on met ça de côté. Puis c'est ça qui s'est passé. Puis là, ça plaît pas à certaines personnes parce qu'il y avait des attentes qui s'étaient créées, mais qui ne sont pas rencontrées un peu. C'est un peu ce que j'ai peur qui arrive. C'est sûr qu'au moins, pour ce qui est de Star Trek, on n'a jamais eu l'audace de canoniser quoi que ce soit qui n'était pas sur film. L'Expanded Universe de Star Wars, c'était... T'sais, les gens se disaient c'est canon officiel parce que il y a quelqu'un qui l'avait dit, mais il n'y avait pas de ligne officielle, de ligne de parti au niveau de Lucasfilm pour dire c'est quoi qui est canon ou qui ne l'est pas. Mais c'est ce qui me chicote un peu parce que là on a les romans de Star Trek qui ont parti une tangente vers un futur possible. t'as le Star Trek Online qui a parti sa propre tangente. Fait que là, on aurait comme les séries qui partiraient la troisième. Mais je sais pas. En tout cas, je sais que la majorité des Trekkies sont assez intelligents pour dealer avec ça, mais on parle de l'Internet quand même.
Ouais, ce que j'ai de besoin, c'est du Star Trek. Là.
Ouais.
Je m'en fous, c'est quoi le contenu? Je veux du Star Trek.
Mais est-ce que tu préférais quelque chose sur un vaisseau, sur une station, ou quelque chose qui est comme plus intime un peu à la Voyager, ou quelque chose qui est plus politique à la DS9?
Ben, personnellement, c'est sûr que j'aime plus politique à la DS9.
Mm-hmm.
J'aime plus les enquêtes. Mais chaque série avait son charme. Tu sais, DS9, j'aimais être sur le vaisseau, j'aimais la fierté d'être sur le flagship, c'est le fun.
Mm-hmm.
Faire de la diplomatie, mais ça, j'aimais l'univers DS9 parce que c'était, oui, des épisodes séparés, mais en même temps, c'était sur longue haleine.
Ouais.
Les histoires, ça, j'aime ça aussi. J'aime tout. Je ne suis pas compliqué comme public au niveau
Star
Trek.
Ouais, je sais, maudit, Marc.
Je suis plate, je vais essayer d'être plus critique. Là, mais j'aime l'univers, j'aime les épisodes, j'aime écouter, j'aime me divertir. Yeah.
Non,
c'est ça que j'aime le plus. Là. Moi, je ne vais pas chercher le petit pouls là, qui va se trouver dans la tête et qui va dire « Oh, c'est... la cuillère n'est pas canon, je m'en calisse-tu? »
Non, ça, c'est ma job. Ça.
Ouais, je sais que c'est ta job.
Je l'assume, tu sais.
Assume-le.
Mais bon, non, je pense que c'est pas mal la vie de plusieurs. Est-ce que c'est, tu sais, un univers où ce que la Fédération est sur un point critique où ce que tout peut tomber ou comme un peu plus comme, tu sais, où ce que c'est relativement stable, tu sais.
Oh, j'aime la stabilité comme on avait dans les autres séries. Là.
Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on s'entend, tu sais, il y avait Star Trek, bon, là, c'est maintenant juste Renegades, mais tu sais, c'est comme le gros méchant qui arrive, qui dit « Ah, 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 la Fédération va être détruite, whatever, si vous faites pas ça. » C'est comme l'intrigue de la série. Je trouve ça un peu tiré par les, tu sais, ça va pas dans l'esprit de Star Trek, personnellement, là.
Non.
Il peut avoir une grosse menace galactique, mais tu sais, je pense qu'il faut que ça soit bien géré. C'est quand même.
Mais sérieusement, les menaces galactiques, moi, je trouve ça bien dans les films.
Ouais.
Parce que sur 2 heures, c'est quand on est capable de le gérer. Mais sur une série, des fois, c'est vous que ça peut être gossant.
Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, l'affaire, c'est que. Star Trek fit sur un format épisodique. On n'est pas encore habitué de le voir en format sérialisé d'une série. T'sais, on commence à le voir avec Discovery, mais tu sais, avec Discovery, on voit qu'il y avait un petit peu de la misère avec le format sérialisé. Là, c'était un peu garoché sur certains aspects. Là, donc moi, comme je dis souvent, c'est... Ben en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est notre ami Sean là, de Trek on the Tube. Là, c'est vraiment l'envergure de la guerre contre les Klingons qui avait pas été super bien représentée, je pense. Il disait « Ah, la Terre est en danger », mais on le voyait pas vraiment, tu sais, ou on sentait pas le
vrai, c'est ça, l'urgence.
Mais, c'est ça, j'espère qu'ils vont se rattraper en tout cas. Ça,
espérons aussi.
Ouais, non, mais personnellement, c'est ça. Moi, ça, j'aimerais juste voir quelque chose. Un peu comme toi, là, au niveau d'une série.
Rafraîchissante.
Une série live action, ce serait vraiment quelque chose. Tu sais, après DS9, peut-être un peu plus loin, là, tu sais, un peu à la Next Generation. Question de pouvoir vraiment, s'ils décident de tout changer les décors, puis tout. Ça va donner un petit peu plus de liberté, tel que ça aurait dû être. Pour Discovery, tant qu'à moi, là. Mais en même temps, c'est correct qu'ils changent l'esthétique, mais en même temps, s'ils le font après, aussi bien le faire comme du monde.
Tant que ça fait pas une série qui a l'air pressée dans le scénario, comme malheureusement ce qu'ils ont fait avec Enterprise. Là.
Ouais, ouais.
Tout le monde sait qu'ils étaient fatigués d'écrire, puis. Mais ils voulaient absolument sortir une série. Là.
Ouais, c'est ça. Il avait demandé un an entre Voyager et Enterprise, puis il n'a pas eu. Fait que c'est ça que ça a donné.
C'est ça.
Mais au niveau d'une série animée, peut-être au niveau d'une série animée, là, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir juste comme un équipage. Je pense qu'il y aurait plus de potentiel de faire quelque chose de vraiment... Tu sais, un équipage plus standard, découverte, tout ça. Je pense qu'en série animée, ça pourrait plus fitter. Je pense que ça pourrait rejoindre une audience peut-être un petit peu plus jeune aussi.
Peut-être sur Stargazer, tout court.
Ouais,
le
peut-être.
Le petit jeune Picard.
Ah, peut-être, oui. Mais tu sais, ça, on s'entend, les possibilités sont sans limite. Ça pourrait peut-être même Riker sur le USS Titan. Tu sais, ça pourrait être...
Ah, ouais.
Ça pourrait être bien des affaires.
Parce complètement que... faire une série sur le clone de Riker. Seul ben sur oui. sa planète.
Thomas Riker, oui, tout seul en prison cardassienne.
Ouais.
Non, ça, parce que vu que tu as juste besoin des voix, puis la majorité des acteurs qui ont joué dans Next Generation et les séries d'après sont encore actifs et en vie, y a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Et comme quelque chose que l'univers de Star Wars nous a montré, c'est que les séries animées, ils ont pas besoin d'être dans la même époque que les films ou les séries adjacentes pour exister. Là, on s'entend, regarde, on avait épisode 7 et 8, mais on avait encore Rebels qui se passait avant l'épisode 4. Tu sais. Puis en plus, on a eu Star Wars Rogue One aussi. Fait que je pense que peut-être que là, ça va peut-être donner le cue aux gens de CBS de se dire bon, ben on n'est plus obligé de rester dans cette époque-là de l'univers Star Trek. On veut se libérer un peu de tout ça. Faut juste faire confiance à l'auditoire, ça. C'est un autre.
C'est juste que CBS, malheureusement, ne peut pas prendre l'univers de Paramount. Là.
Ouais, mais non, en fait,
Kelvin, là, mais...
Moi, mais en même temps, tant que moi, c'est bien correct, là, le Kelvin. Rendu là, s'ils font un Star Trek 4, tant mieux. Je vais aller le voir au cinéma, probablement deux, trois fois. Surtout, c'est Quentin Tarantino qui travaille dessus. Encore mieux. Mais tant qu'à moi, Star Trek, ça reste le Prime Universe en premier. Là.
Ah, c'est sûr. Mais, tout le monde sait que c'était pour sortir une nouvelle fandom.
Puis ça a marché. Je veux dire, honnêtement, il y a plein de... Justement, il y a plein de gens qui ont découvert Star Trek au travers des films de 2009, Into Darkness. Ouais. Fait qu'on va leur donner le crédit. Là,
juste Marie Jocel, là, je l'ai vu cette semaine, a acheté le coffret, les trois Kelvin. Puis c'est comme ça qu'elle a découvert, puis elle est rendue fan de TOS. Ouais.
C'est ça. Donc, on a beau chialer, j'ai beau chialer sur Into Darkness, puis on a beau chialer sur les reboots, ils ont quand même fait leur job, puis je suis content que CBS fasse confiance à quelqu'un comme Kurtzman pour produire plus de Star Trek. Certains vont dire « Ouais, mais il a réalisé La Momie, c'était pas bon, puis les films de Star Trek, nanana. » Mais il y a quand même, tu sais... Parce que les gens vont juste mentionner les trucs plus ou moins bons qu'il a fait dans son CV, mais en même temps, ils vont comme laisser de côté les bonnes séries sur lesquelles il a travaillé, comme justement comme Alias, Xena, Fringe,
Xena.
Sleepy Hollow, je pense que la série était un petit peu moyenne, mais quand même, t'as fait une couple de saisons, là, donc...
Il y en a trois, je pense.
C'est ça, donc c'est quelqu'un qui est capable de livrer la marchandise. C'est pas contrairement à Brian Fuller qui lui s'est fait renvoyer de sa quatrième série en deux ans. Il était sur Discovery, il s'est fait sortir dehors. Il était sur American Gods, il s'est fait sortir à deuxième saison. Il était sur le reboot de Amazing Stories, il s'est fait sortir de ça. Il était sur le reboot de... Pas un reboot, mais sur l'adaptation de Vampire Chronicles. Il s'est fait sortir de ça aussi. Ça me dit que quelqu'un... Ça, c'est probablement un producteur qui va comme ignorer les budgets, qui va ignorer ce que le studio dit, qui va avoir comme sa vision à lui, puis qui va pas entendre, qui va pas écouter personne.
Chiotte, écoutez-moi.
C'est ça. Tandis que justement, c'est quelqu'un comme. Rick Berman, qui lui, justement, à l'époque, était quelqu'un qui était vraiment. Qui émergeait des studios. Fait que lui, il était capable de respecter le budget puis de dire non, ça va trop loin. Ça coûte trop cher, on arrête ça. Tu sais. Fait que je pense que c'est, ça, c'est quelqu'un qui va être capable de garder le to stay the course, comme on dit en anglais, là, garder le cap et éviter les débordements, là, puis justement aider à faire fleurir Star Trek. Donc, c'est pas mal ça, c'est pas mal mon avis là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à parler, Marc?
Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé à part ça. Mais...
Il y a une peluche Gorn exclusive à Star Trek Las Vegas. Ouais, mais
c'est encore notre voyage à Las Vegas.
Ah, je sais, mais tu sais. Ben, il y a de la nouvelle marchandise qui est sortie. Si tu as 250 $ américains, tu peux t'acheter un organe. Donc, la fameuse petite statuette rhysienne de la planète Risa pour signifier le fait que tu veux atteindre le Jamaa Harddon.
Oh, ben oui.
On parle d'une réplique 1-1, donc une réplique taille réelle. Je sais pas si c'est gossé dans le bois à la main, probablement pas. Non, c'est moulé de résine et pèse 55 onces. Donc, chacune est finie à la main. Aucune ne sera pareille, donc quand même. Il y a un petit fini à la main. Des belles tasses Kirk et Picard qui tiennent un phaser à la main. Et on a un petit buste, les bustes de Saru qui est quand même qui a l'air vraiment très bien fait. Et si tu as 1500 $ américains, tu peux avoir le phaser rifle de Discovery provenant de nos amis à Novos, nos chers vampires de portefeuille. Et si tu es un petit peu plus sur un budget, il y a un beau t-shirt avec un phaser Discovery dessus, une espèce de plan de phaser sur un t-shirt. Donc, pour moi, ça, c'est probablement le genre de truc qu'on va peut-être ramasser là, à Vegas. Et comme j'avais promis à notre ami USS Florent, si jamais on voit... jamais je croise le petit Gorn, c'est clair que je les ramasse ça. C'est limité à... c'est parce qu'il y a une espèce de petite peluche Gorn qui fait partie d'une collection qui s'appelle Itty Bitties, si je me rappelle bien. Et justement, le Gorn va être exclusif à San Diego Comic-Con. Star Trek Las Vegas, c'est, je pense, une autre convention.
New York.
Oui, New York Comic Con.
Oui, c'est ça, New York, ouais.
Donc, on va falloir spotter là, ça, quelque chose, on va falloir faire, spotter les trucs exclusifs à la convention, puis essayer de profiter de notre...
De faire de l'argent.
Ben, pas de faire de l'argent.
Alors, je niaise.
Mais, genre, de profiter de notre statut copper pour aller dans la salle de marchande une journée à l'avance. Donc, pour moi, je pense que c'est le mardi qu'on y a accès comme une espèce de journée preview. Donc, on va peut-être pouvoir justement aller s'acheter une couple de trucs exclusifs. Si jamais il y a un truc exclusif à San Diego, pas San Diego, mais à Star Trek Las Vegas que vous désirez, faites-nous signe. On va peut-être être capable de vous le ramasser. On sort 15%. Là, on s'entend, on ne va pas ça pour gratuit. Ferengi, pardonnez-moi. Mais si jamais quelque chose que vous voulez vraiment, on peut sûrement s'arranger pour vous le ramasser.
Ouais.
Moi, ça couvre pas mal tout ce que j'avais à dire. Là. J'ai hâte en fin de semaine. Pis... Oh. C'est ça. Fait que là, tu vas nous manquer, Marc. Taken Neroga, sans toi, ce ne sera pas pareil.
Ouais, je sais que c'est différent sans moi, mais. Mais des fois, j'ai pas le choix.
Ah, c'est correct. J'ambitionne un peu déjà avec. Parce que là, je vais faire Taken Neroga en fin de semaine. Dans 2 semaines, je vais aller rejoindre mes amis Klingons au Montreal Comic Con. Après ça, on a Vegas. Et après ça, on a Trek on Neroga. Ça va faire un été un petit peu chargé. Puis toi, en plus, ouais. t'as sa geek. Hein,
moi, j'ai sa geek dans 3 semaines.
Je pense que je vais tirer un trait sur celle-là, malheureusement, parce que...
D'accord.
Tu m'abandonnes Tu m'abandonnes pour Ticonderoga, moi je t'abandonne pour ça.
Ah, je viens de comprendre pourquoi tu viens pas.
Ouais, parce que j'économise. Ben, c'est ça. Je veux mon 3 000 $ de, je veux mon 3 000 US d'argent de poche pour Vegas. Ça implique des sacrifices, malheureusement.
Ben, c'est pour ça que je sacrifie aussi mon premier voyage à Ticonderoga.
C'est correct. Il y a toujours.
J'ai trouvé ça dur de le passer par-dessus, mes gars.
Ouais, c'est correct. C'est quand même pas les Okuda que tu manques non plus, tu sais.
Non, c'est sûr. Non. Mais sérieusement, j'aurais aimé ça rejaser avec Dave et sa femme.
Ouais.
Ben, si elle est là, bien sûr.
Ben, je vais leur passer tes bonjours.
Parfait.
Et sur ce, ben, on va se laisser sur du William Shatner. La chanson Common People, qui est une adaptation d'une chanson du même titre. Merci de nous écouter. Et il y a un nouvel épisode aussi de Star Trek pour les nuls qui s'en vient. Je vais peut-être aussi donner une entrevue. Ça fait un peu étrange de donner une entrevue sur mon propre channel, mais il y a Rémi qui voulait que je parle de Star Trek. Pour Star Trek pour les nuls, donc quand on va pouvoir accorder nos horaires, ça va être disponible sur le fil de Parlons Trek. Donc, ben merci beaucoup, Marc.
Ça fait plaisir.
Et on se reparle un moment donné. Bon, ben, merci tout le monde et bonne écoute, bonne semaine sur les ondes de puissance maximale.
She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here.
Are you sure?
You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand.
She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here.
You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do.
Because there's nothing else to do.
You think that poor is cool.
like a dog lying in a corner. They'll bite you and never warn you, look out.
They'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist.
'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie.
Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people.
You'll never do what common people do.
You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do.